Ce soir, nous recevons le professeur Mireille Delmas-Marty. Mireille Delmas-Marty est diplômée à un doctorat de droit et une agrégation de droit privé et sciences criminelles. Depuis, de 1996 à 1999, elle a été coordinatrice du groupe d'experts européens chargé du projet Corpus Juris. De 1999 à 2000, présidente du comité de surveillance de l'Office européen de lutte antifraude. Elle est également professeure à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France et directrice de l'école doctorale de droit comparé et de l'UMR de droit comparé de Paris. Ses spécialités sont la politique criminelle et droit pénal et l'internationalisation du droit. Ses publications sont nombreuses. Elle a notamment publié « Le flou du droit », PUF 1986, « Pour un droit commun », Seuil 1994, « Vers un droit commun de l'humanité », Textuel 1997, « Trois défis pour un droit mondial », Seuil 1998. Elle a dirigé des ouvrages collectifs suivants, « Raisonner la raison d'État », PUF 1989, « Corpus Juris pour la protection pénale des intérêts financiers de l'Union européenne », Economica 1997 et nouvelle version Inter Cynthia 2000. Et elle a participé à l'ouvrage « Le clonage humain » au Seuil 1999. Professeur Mireille Delmas-Marty, je vous laisse la parole.
Merci de me donner l'occasion donc de parler sur ce thème « droit et mondialisation ». En fait, le mot important là-dedans, c'est le petit « et ». Car les deux termes paraissent à première vue plutôt s'opposer que s'unir. Le droit est généralement décrit comme un phénomène spécifique d'une société donnée, et il apparaît aussi comme un des attributs de la souveraineté des États. Alors, la mondialisation menace l'un et l'autre. Je dirais que la rencontre risque d'être agitée. Il y a un avis de tempête, c'est peut-être pas par hasard. En effet, la spécificité sociale et la souveraineté étatique sont de plus en plus difficiles à maintenir contre la poussée formidable des technologies de la communication. Et forcément, le droit en subit les contre-coups. En fait, la mondialisation actuelle, vous le savez bien, ce n'est pas la première de l'histoire, mais pour la première fois, elle va de pair avec ces nouvelles technologies qui abolissent les distances et qui surtout se jouent des frontières. Bien sûr, la mondialisation favorise paradoxalement les revendications locales et une certaine prolifération des États. Il y avait une soixantaine d'États après la Deuxième Guerre, en 1945, il y en a presque 200 maintenant. Mais avant tout, la mondialisation se traduit par des dépendances. Dépendances qui viennent du marché et de la globalisation économique, et dépendances qui viennent aussi des droits de l'homme et de leur vocation universelle. Alors, politiquement, cette mondialisation appelle sans doute de nouvelles responsabilités. Elle annonce déjà ce que certains appellent un monde sans souveraineté. On nous annonce son avènement, ou je dirais au moins l'idée de souveraineté partagée. Prétendre le contraire, ce serait vouloir sauver à tout prix la face, sous prétexte de préserver les apparences de la souveraineté, on risquerait de consacrer une souveraineté d'apparence. Mais juridiquement, la mondialisation s'accompagne déjà, c'est une réalité, ce n'est pas seulement une idée, de fragments d'un droit commun. Un droit qu'on peut appeler mondial, en ce sens qu'il s'agit de normes qui ont vocation à s'appliquer au-delà des frontières nationales, mais certainement pas, si on entend par droit mondial, un dispositif qui serait cohérent, ordonné et légitime. En fait, cohérence, la symétrie entre le marché et les droits de l'homme n'est qu'apparente. Et la relation entre droit et mondialisation garde une grande part d'ambiguïté. L'apparition d'un droit de la mondialisation, qui serait au fond à vocation économique, est sans doute beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que la mondialisation du droit, qui permettrait le rapprochement des droits nationaux sous l'influence des droits de l'homme. On peut même se demander si les deux processus ne sont pas contradictoires. Car au fond, d'un côté, la globalisation économique, c'est la marque d'une mutation qui est caractérisée par une certaine impuissance des États. Les États restent limités par leur territoire, tandis que les acteurs économiques, bien, ils déploient des réseaux à l'échelle des stratégies globales. Au-delà de la déréglementation, voilà qu'on nous parle déjà de démontage étatique. Le mécano industriel serait entré dans une phase active de démontage des États. Voilà ce qu'on nous annonce. Au contraire, l'universalisme éthique, qui est annoncé par la Déclaration universelle de 1948, Déclaration universelle des droits de l'homme, il est encadré par un certain nombre d'instruments internationaux à portée régionale ou parfois mondiale, mais toujours avec le relais et par le relais des États. Alors, cette première contradiction quant à la place respective des États s'accompagne, quelque chose qui est plus grave encore, une sorte de conflit idéologique quant à la signification d'une extension planétaire, qui tend, semble-t-il, moins vers le partage qui serait inhérent à l'idée d'universalisme que vers une société de marché, qui est marquée à l'inverse par un accroissement des inégalités. Bien sûr, il y a un mouvement de rattrapage, il y a un fort mouvement de rattrapage au profit des nouveaux pays industrialisés, mais il reste que les inégalités s'accroissent, non seulement dans les pays riches, mais dans tous les pays, y compris les pays émergents. On sait qu'à l'heure actuelle, un quart de l'humanité vit en dessous du seuil de très grande pauvreté. On sait que l'écart entre les 20% plus riches et les 20% plus pauvres a plus que doublé au cours des trois dernières décennies. Alors ça laisse un peu sceptique quant à la capacité du libéralisme économique à promouvoir à lui seul le bien-être général. Il faudrait transformer ces contradictions en une sorte d'interdépendance. Mais là, la voie n'est pas tracée d'avance. Tout ce qu'on peut faire, et ce que j'essaierai de faire, c'est de tenter de repérer à quelles conditions l'idée d'un droit commun qui conjuguerait le marché et les droits de l'homme serait réalisable. Encore faudrait-il que ces fragments d'un droit commun qui surgissent actuellement dans le plus grand désordre soit pensable juridiquement. Alors, juridiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ordonner selon la raison juridique. Or, l'ordre juridique traditionnel, il est conçu selon un principe de hiérarchie. Au fond, il n'y a qu'une alternative, subordination, donc unification, ou indépendance, donc souveraineté. Or, les fragments qu'on voit ici ou là d'un droit commun relèvent très rarement de normes unifiées. Alors, si on écarte la conception simple, mais un peu inquiétante, qui est la conception hégémonique, d'un droit unique qui serait le droit imposé par l'État ou par le partenaire économique le plus puissant, eh bien, l'unification, elle ne peut guère venir que du droit international. Alors, il y en a des exemples, mais ils restent tout à fait exceptionnels. Demain, vous aurez une conférence sur le droit pénal international, avec la notion de crime contre l'humanité qui est apparue à Nuremberg, qui a été reprise avec les tribunaux pénaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, reprise encore par la Convention de Rome qui crée une cour pénale permanente. Là, il y aurait effectivement l'ébauche d'une unification, mais c'est tout à fait exceptionnel. Le plus souvent, bien, le droit qui accompagne la mondialisation, il se heurte en fait à un droit national préexistant, à des systèmes préexistants qui résistent à l'unification. Ce qui fait que les normes seront au mieux harmonisées. Il faut bien distinguer cela de l'unification. Harmoniser, ça veut dire un rapprochement, tout en admettant une marge nationale, un droit à la différence en quelque sorte.
Donc une survie partielle du droit interne. Le résultat est d'une complexité extrême. Car au fond, la notion de marge permet un certain pluralisme, mais il reste à savoir si ce pluralisme peut être juridique, c'est-à-dire ordonné, et comment. Enfin, en termes de légitimité, comment ne pas s'interroger sur la signification d'un transfert de compétences législatives et judiciaires au profit de ce qu'on appelle déjà « global governance », gouvernement global qui, en l'absence de véritable démocratie planétaire, risque de ressembler davantage au gouvernement des plus riches, plutocratie, qu'à celui des peuples, démocratie. En somme, ce que je voudrais montrer ici, c'est que le débat, c'est déjà plus de savoir si on est pour ou contre, c'est savoir comment. Comment résoudre les questions que la mondialisation commence à poser au droit? Donc, trois questions. Contradiction ou interdépendance entre marché et droit de l'homme? Désordre normatif ou pluralisme ordonné? Et puis, le plus difficile peut-être, démocratie ou plutocratie? La première question, c'est donc la contradiction ou l'interdépendance entre marché et droit de l'homme. Ce qui est clair, c'est que l'ordre juridique du marché et celui des droits de l'homme ont bien l'air de se construire séparément. À l'échelle mondiale, on voit se dessiner ou commencer à se dessiner une dualité institutionnelle avec la montée en puissance de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, face à l'Organisation des Nations unies, l'ONU, qui garde en charge la protection des droits de l'homme, et face à l'Organisation internationale du travail, l'OIT, la plus ancienne, puisqu'elle assure depuis 1919 la promotion et le développement des droits sociaux. En même temps, les institutions ne doivent pas faire illusion, car le contrôle du respect des droits de l'homme reste quasi inexistant, à l'échelle mondiale, et le commerce mondial continue à privilégier des mécanismes d'autorégulation plus que de régulation. À l'échelle régionale, et en particulier en Europe, l'intégration juridique est plus avancée, bien sûr. Mais les deux processus, le marché et les droits de l'homme, les deux processus restent autonomes. Il y a une sorte de juxtaposition qui est symbolisée par l'existence au sein des deux principaux ensembles normatifs européens qui sont l'Union européenne, l'Europe des 15, l'Europe économique, et le Conseil de l'Europe, les 41. Au sein de ces deux ensembles, on a deux cours suprêmes donc pour l'Europe. La Cour de Strasbourg pour les droits de l'homme, la Cour de Luxembourg pour l'Union européenne. Alors bien sûr, ce qu'on observe en Europe, c'est que à mesure que chaque ordre normatif se développe, la juxtaposition ne tient plus. Elle conduit à une sorte d'enchevêtrement. Et c'est là que les contradictions peuvent surgir, commencent à surgir. Qu'il s'agisse du débat sur la clause sociale ou sur l'exclusion sociale, des questions liées aux médias ou aux biotechnologies, le cloisonnement en deux sphères distinctes du droit paraît dépassé. Et alors le risque, c'est de résoudre les contradictions en subordonnant les droits de l'homme aux exigences du marché. Alors que la bonne réponse, ce serait sans doute l'interdépendance des deux sphères. Alors, cette idée d'interdépendance, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est déjà présente dans le préambule de la Déclaration universelle de 1948, la Déclaration des droits de l'homme, qui d'emblée annonce qu'il s'agit de libérer les hommes de la terreur et de la misère. La terreur nous renvoie aux droits civils et politiques, mais la misère renvoie aux problèmes économiques et sociaux. Juridiquement, cette idée d'interdépendance, qui est donc lancée au fait dès 1948, elle se traduit par le principe d'indivisibilité de tous les droits fondamentaux. Et d'ailleurs, à l'article 1 de la Déclaration universelle, on trouve le devoir de fraternité. Et dans cette déclaration, on trouve à la fois l'énumération de droits civils et politiques, mais aussi de droits économiques, culturels et sociaux. Seulement, voilà, l'écart s'est creusé. L'écart s'est creusé avec l'adoption de deux pactes différents en 1966 pour les deux catégories des droits, et surtout avec des contrôles qui ne sont pas du tout symétriques. En gros, les contrôles sont plus développés pour les droits civils et politiques, sont garantis par les cours constitutionnelles, par les cours régionales et un peu par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, que pour les droits économiques, sociaux et culturels qui sont laissés quasiment sans contrôle. Pourtant, à l'heure de la globalisation économique, cette notion d'indivisibilité entre tous les droits fondamentaux devrait reprendre tout son sens. Je crois vraiment que plutôt que de diaboliser le commerce mondial, plutôt que de prétendre renoncer à l'économie de marché, mieux vaudrait essayer d'utiliser le dynamisme et l'effet d'ouverture de ces notions et d'en réduire les effets pervers par une reconnaissance des droits fondamentaux et de tous les droits. Mais vous allez me dire, ça c'est un beau discours, facile à dire, comment on fait ? Je vois en tout cas deux pistes. La première, c'est simplement une conquête à consolider, ce serait mieux assurer l'opposabilité de tous les droits fondamentaux aux États. Mais pour vraiment dépasser l'ambiguïté actuelle, il y a aussi un nouvel enjeu, qui serait l'opposabilité de ces droits aux acteurs économiques. Et ça, c'est encore plus difficile. Alors, l'opposabilité des droits fondamentaux aux États, ça suppose le renforcement des mécanismes de contrôle. Il y a deux manières de procéder. Soit on maintient la division en deux catégories, alors ça veut dire qu'il faut améliorer la protection des droits civils et politiques, il faut renforcer notamment le caractère juridictionnel du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, et surtout il faut compenser la dissymétrie actuelle au détriment des droits économiques, sociaux et culturels, en créant pour eux aussi des mécanismes de contrôle équivalents. C'est un peu ce qui est à l'étude avec le jeu des protocoles additionnels. On le voit à l'échelle européenne, avec la Charte sociale européenne et un protocole qui permet maintenant des réclamations collectives, et on le voit avec les propositions pour les Nations Unies. Ça permet d'avancer un peu, mais l'inconvénient, c'est que ce choix-là, ça prend beaucoup de temps. Et au fond, ça aboutit à consacrer la division existante. Alors moi, je préférerais une deuxième formule plus radicale, écarter la division entre droits civils et politiques, droits économiques, culturels et sociaux, et aller vers une réunification de l'ensemble. Et il y a pas mal d'arguments dans ce sens. D'abord, il y a des arguments pratiques. Car on ne peut pas réellement mettre en œuvre les droits d'une catégorie indépendamment de l'autre. Exemple, sans logement, la plupart des droits civils et politiques sont inaccessibles. On n'a pas de vie privée, on n'a pas de vie familiale, le droit de vote, on a du mal à l'exercer, etc. Inversement, la suppression des principales libertés civiles et politiques entraîne, c'est bien connu, des conséquences négatives sur le dynamisme économique et sur la cohésion sociale. D'ailleurs, de nombreux droits sont quasiment inclassables. La liberté syndicale, elle est liée au droit du travail, donc aux droits sociaux. En même temps, c'est une liberté publique, au même titre que la liberté d'association ou la liberté de réunion. Autre exemple, le droit de propriété. Il est à la fois civil et économique, individuel et collectif. Il est à tel point inclassable qu'il a été omis dans les deux pactes des Nations Unies alors qu'il figurait dans la Déclaration universelle. Encore un exemple, parce qu'il est très significatif, les droits des enfants. On a essayé de les répartir un peu entre les deux pactes des Nations Unies, mais on n'y arrive pas vraiment. Et finalement, il a fallu adopter une convention spécifique, transversale. C'est un peu la même chose, au fond, pour tous les sans-droits, les sans-emploi, les sans-papiers, les sans-domicile fixe. La réalité quotidienne, en réalité, elle rejette la division en deux catégories. Cette division, Elle est d'origine historique, c'est un classement superficiel qui est le reflet de deux visions historiquement situées, libéralisme et socialisme. Il serait temps peut-être de la dépasser pour assurer un contrôle effectif de l'ensemble des droits fondamentaux. À cet égard, le projet de charte des droits fondamentaux pour l'Union européenne qui vient d'être adopté à Biarritz le mois dernier, en octobre, et qui va être discuté dans le cadre du traité de Nice à la fin de cette année, a le grand mérite de renoncer à la division bipartite. Dans les premiers projets, on avait gardé la division et puis on l'a dépassée. Il y a 6 chapitres. La dignité, les principales libertés, qu'elles soient civiles et politiques ou économiques, sociales, l'égalité, qui s'applique évidemment dans tous les domaines, la solidarité qui permet d'intégrer pleinement les droits sociaux, la citoyenneté, principaux droits politiques et civiques, et finalement l'idée de justice, qui en réalité renvoie à des droits de procédure qui sont valables dans tous les domaines. Alors, si la charte devait se voir reconnaître un effet juridique, on n'en est pas là, parce que beaucoup de pays n'en veulent pas, donc ça risque d'être simplement un effet d'affichage. Mais si elle avait un effet juridique, elle aurait alors vocation aussi à s'appliquer aux acteurs économiques. Donc elle ferait la liaison entre l'opposabilité aux États et l'opposabilité aux acteurs économiques. Alors l'opposabilité des droits fondamentaux aux acteurs économiques, et en particulier aux entreprises transnationales, c'est devenu un enjeu essentiel. Au fond, il faudrait apprendre à utiliser les mécanismes propres au marché, la régulation et l'autorégulation, pour assurer pas seulement la libre concurrence, mais aussi le respect des autres droits fondamentaux. En ce qui concerne la régulation, il y a déjà un certain nombre d'organisations de développement économique régionales. Mais c'est vrai que leur potentiel d'intégration juridique est très variable. Il y a de tout. Il y a un simple cadre de consultation mutuelle, comme l'ASEAN en Asie, coopération économique avec l'APEC pour la zone Asie-Pacifique, zone de libre-échange, là je pense à l'ALENA, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique, l'union douanière, qui fait penser au Mercosur en Amérique du Sud, ou alors la véritable union économique et monétaire qui nous ramène en Europe avec l'Union européenne, sans oublier aussi des organisations d'harmonisation du droit des affaires, comme on connaît maintenant en Afrique, avec l'OADA entre pays africains de la zone franc. La question, c'est de savoir si des instances chargées de veiller sur les règles du marché, quand elles existent, ce n'est pas le cas partout, mais savoir si ces instances ont la possibilité de prendre aussi en compte le respect des droits fondamentaux. Alors, pour ce qui est de l'Europe, il y a une évolution qui est en cours. Il est déjà admis par le juge communautaire, donc l'Europe des 15, que le respect des principes qui régissent le marché intérieur au sein de l'Union n'est plus un objectif absolu. La Cour de Luxembourg commence à prendre en considération l'intérêt général, mais le marché reste quand même l'objectif premier. Et à cet égard, la charte pourrait marquer une avancée si elle a un effet juridique, et je dirais aussi si on améliore le contenu d'un certain nombre de droits qui sont quelquefois définis de façon un peu rapide et un peu superficielle. Maintenant, à l'échelle mondiale, c'est plus problématique. On a un peu l'impression qu'on recommence les mêmes erreurs en séparant la régulation économique du respect des droits fondamentaux, un peu comme si les expériences européennes n'avaient pas servi à grand-chose à l'échelle planétaire. S'agissant des acteurs économiques, il y a une régulation qui s'amorce à l'OMC, même si l'organisation reste de nature interétatique, en principe n'engageant que les États. Alors, il y a un mécanisme de règlement des différends qui est attribué à un simple organe, qui est décrit comme une sorte de mixte de diplomatique et d'un juridictionnel entrecoupé de contractuel. Vous voyez la gêne qui est exprimée par ce type de définition. En fait, cet organe n'adresse ses rapports qu'aux États. Les entreprises sont finalement atteintes indirectement par les mesures de rétorsion qui sont imposées par l'État victime, Mais les compensations, quand il y en a, sont toujours reversées aux États. Alors, il y a maintenant tout un courant de doctrine qui propose l'entrée des opérateurs économiques pour limiter l'impact des rapports de force directs entre États. Et c'est vrai que ça permettrait un rééquilibrage au profit du droit. Mais il est clair aussi que ça ne suffira pas. Je dirais que la grande nouveauté, c'est l'entrée des organisations non gouvernementales, des ONG. Elles se sont invitées à Seattle. Et maintenant, il faut compter avec elles aussi. Alors, il n'y a pas de Parlement mondial, mais à défaut, il faudrait sans doute envisager pour les ONG, comme pour les représentants des parlements nationaux, voire régionaux, je pense au Parlement européen, il faudrait envisager une forme de participation pour ouvrir l'OMC à des préoccupations non commerciales. Il y a déjà des affaires qui ont permis de soulever des questions écologiques ou culturelles, mais sans effet réel. Quant à la question des droits sociaux, quand elle a été soulevée à l'OMC, elle a été renvoyée à l'Organisation du travail. Seulement, le problème, c'est que la compétence de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, elle est limitée aux droits des travailleurs et pas aux exclus. En réalité, je crois qu'il faudrait arriver à intégrer la situation sociale dans son ensemble. Alors, on sait qu'à l'heure actuelle, il faudra sans doute reconnaître un traitement spécial plus favorable au profit des pays pauvres très endettés, ce qui amène à dire qu'il faudrait améliorer le développement social dans ces pays pour que le traitement spécial ne soit pas utilisé comme dumping social, si on veut garantir en même temps une sorte d'égalité du marché. On voit bien qu'à défaut de maîtriser l'ensemble des données, l'OMC reste vouée au seul commerce. Et la principale contribution des États, on le leur reproche, c'est au fond d'avoir tendance à aplanir le terrain au profit des entreprises en oubliant un peu vite que l'organisation pourrait servir aussi d'autres intérêts, et notamment l'intérêt général. Ça, c'est la régulation. Quant à l'autorégulation, qui est très présente dans ce domaine, eh bien, je crois que le lien resterait à faire entre ce qu'on appelle le droit mou, l'éthique, les codes de conduite, et le droit dur, les règles qui sont juridiquement sanctionnées. Suzanne George, dont vous avez peut-être lu le rapport de Lugano, qui est très critique sur la situation actuelle, elle n'a pas tort de dire que l'éthique d'entreprise, c'est une sinistre plaisanterie, dans la mesure où aucune instance extérieure ne serait là pour contraindre l'entreprise à respecter ses engagements. Elle a raison, l'autorégulation n'est crédible que si elle est accompagnée d'un contrôle externe indépendant et impartial, ce qui en même temps d'ailleurs renforcerait l'efficacité en facilitant la reconnaissance des faits juridiques. On pourrait reconnaître à l'éthique d'entreprise, au code de conduite, des effets micro-juridiques en droit du travail, en droit de la concurrence, en droit des contrats, à partir du moment où la violation de la règle éthique pourrait entraîner des sanctions. Et même à ce qu'on appelle un niveau macro-juridique, l'éthique pourrait être intégrée comme composante de l'ordre public transnational, et on pourrait alors l'invoquer, par exemple, à l'occasion d'une procédure d'arbitrage international. L'arbitre pourrait tenir compte du respect ou de la violation des règles éthiques. Mais la condition préalable, c'est l'existence de procédures de vérification indépendantes. C'est la clé, en fait, de ce passage du mou au dur. Alors là, on n'est pas très avancé. Il y a un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui a été publié en janvier 2000 sur le titre, un peu surprenant, « Business and Human Rights », les affaires et les droits de l'homme. Très bien, on essaye de justement les faire travailler ensemble, pourquoi pas. Mais sur les procédures de vérification des codes de conduite, des règles d'éthique, vous avez quelques lignes tout à la fin du rapport. Et la question n'est pas véritablement abordée. Autrement dit, si l'interdépendance entre marché et droits de l'homme est faisable, j'ai essayé de montrer qu'elle l'était, il est clair qu'elle reste encore une utopie. Et une utopie qui sera d'autant plus difficile à réaliser que l'obstacle n'est pas seulement économique et politique, il est aussi, je dirais, presque d'ordre épistémologique, dans la mesure où la mondialisation, c'est un défi à la raison juridique. C'est un défi à une raison qui ne conçoit qu'un ordre unifié et hiérarchisé, je dirais unifié parce que hiérarchisé. Alors ça, c'est la deuxième question. j'ai appelé désordre normatif ou pluralisme ordonné. L'ordre juridique traditionnel n'est pas pluraliste, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Il repose sur un principe de hiérarchie qui est symbolisé par l'image de la pyramide, formée de plusieurs étages. La norme inférieure est subordonnée à la norme supérieure jusqu'à une norme fondamentale supposée qui fonde l'unité du système. Alors, dans les rapports entre droit interne et droit international, cette représentation, au fond, n'admet que deux conceptions. Soit le monisme, c'est-à-dire un ordre juridique global auquel tous les autres seraient subordonnés, soit le dualisme, c'est-à-dire des ordres juridiques nationaux conçus comme autant de pyramides séparées et indépendantes, c'est-à-dire que la norme internationale ne sera intégrée dans l'ordre interne que par un acte du législateur national. On voit bien qu'aucune de ces deux conceptions n'est satisfaisante à l'heure actuelle. À l'échelle mondiale, le monisme, c'est tout à fait utopique. Quant au dualisme, il exclut la primauté directe de l'ordre international et ses interférences directes de plus en plus nombreuses dans une société qui se mondialise. D'où le constat de désordre. Alors, désordre, à moins d'imaginer un troisième modèle, qui ne serait ni moniste ni dualiste, mais pluraliste. Et je crois personnellement que seul le pluralisme permet de rendre compte à la fois de la relation entre les normes nationales et internationales qui est marquée par une hiérarchie affaiblie, il y a des retours au droit interne, et en même temps de la relation entre des normes internationales à vocation régionale ou mondiale, peu importe, mais qui se juxtaposent sans hiérarchie, OMC, ONU, ou Union européenne, Convention européenne des droits de l'homme. Seulement, il reste à ordonner le pluralisme, alors que les deux mots, à première vue, sont plutôt antinomiques, là aussi. Il y a peut-être deux notions qui peuvent y contribuer. D'une part, la notion de marge nationale d'appréciation pour ordonner verticalement le jeu des hiérarchies enchevêtrées. Et d'autre part, la notion de co-régulation qui pourrait relier horizontalement des ensembles internationaux autonomes. Alors, si on regarde d'abord pluralisme vertical et marge nationale d'appréciation, là, on se place dans la relation entre les normes nationales et les normes internationales, et l'idée, c'est qu'en reconnaissant des marges aux États, on irait vers un pluralisme par la voie de l'harmonisation. Comme je l'ai dit, le terme harmonisation veut dire un rapprochement autour de principes communs, mais pas l'identité absolue. Donc l'harmonisation, c'est le pluralisme parce qu'on ménage une sorte de droit à la différence. Chaque État garde une marge pour mettre en œuvre ses principes communs, à condition que les normes qu'il adopte soient jugées compatibles. Un exemple pour être un peu plus précise. La Convention européenne des droits de l'homme reconnaît le droit au respect de la vie privée. Et elle n'admet les ingérences des États, par exemple le placement sur écoute téléphonique, que sous certaines conditions. Donc on a un principe commun. Mais le droit n'est pas unifié pour autant en matière d'écoute téléphonique. Les règles varient d'un pays à l'autre. Au Royaume-Uni, par exemple, le contrôle est exercé par un juge. En France, nous avons une autorité administrative indépendante. En Allemagne, c'est une commission parlementaire. Donc il n'y a pas d'unification. Et pourtant, il y a harmonisation. Car partout, ce que la Convention impose, c'est qu'il y ait une base légale pour que les écoutes soient légitimes. Il faut qu'il y ait un système de contrôle impartial et indépendant. Et partout, la Cour européenne va vérifier la proportionnalité des mesures prises. Si un État plaçait toute une population sur écoute téléphonique sous prétexte qu'il y a eu une vague menace de terrorisme à un moment donné de façon très circonscrite, il serait condamné pour violation du principe commun de respect de la vie privée. Donc voilà ce que concrètement peut signifier l'harmonisation. Alors bien sûr, les choix essentiels, et je pense que vous aurez l'occasion d'y revenir demain, comme l'interdit des crimes contre l'humanité, comme l'interdit de la torture ou de l'esclavage, ou l'abolition de la peine de mort, ont vocation, ce n'est pas encore fait, mais ils ont vocation à l'unification. Et je crois même que c'est à partir de ce noyau irréductible les droits indérogeables, les crimes imprescriptibles, que se construira l'humanité comme véritable sujet de droit, comme catégorie juridique nouvelle. Mais beaucoup de questions conflictuelles, notamment dans les domaines économiques et sociaux ou dans les domaines qui touchent à la morale ou à la religion, ne peuvent pas être d'emblée unifiées. Il est clair que le droit ne résoudra pas à lui seul les conflits les plus difficiles, il n'est pas tout-puissant. Et je pense notamment à la question du statut des femmes dans les pays d'islam. Mais ce que le droit peut faire, c'est de faciliter un rapprochement progressif. J'ai mené depuis quelques années une recherche en Chine et dans divers pays d'islam. Et d'ailleurs, là, au premier rang, il y a des étudiants chinois et des étudiants iraniens. Eh bien, cette recherche, elle a montré la possibilité d'élaborer des principes qui seraient reconnus communs, sous réserve d'une marge nationale d'appréciation qui sera peut-être très large dans certains domaines, un peu moins dans d'autres. Cela étant, à une échelle mondiale, les obstacles sont aussi politiques. Il n'y a pas de juridiction commune pour définir et pour contrôler l'usage de ces marges. Donc c'est un peu problématique. Alors à cet égard, j'insiste sur le fait que l'Europe me paraît fonctionner un peu comme un laboratoire, c'est-à-dire pas forcément un modèle à suivre, mais un lieu d'observation et d'analyse. Car en Europe, il y a une volonté de construire ensemble une Europe d'abord économique, mais aussi juridique, alors qu'aucun pays n'est en position d'hégémonie. Que vous preniez les 15 membres de l'Union ou les 41 membres du Conseil de l'Europe, aucun n'est en position hégémonique. Je crois que c'est une situation unique à l'échelle mondiale d'une région où aucun pays n'est en position d'imposer son système. Ce n'est pas qu'on n'ait pas essayé. On a tous plus ou moins essayé. On a eu l'Empire romain, on a eu Napoléon, il y a eu Hitler. Mais toutes les tentatives impériales, impérialistes, ont échoué. Et maintenant, on est en quelque sorte condamné à bâtir ensemble un droit commun pluraliste. Parce que toute autre conception serait immédiatement rejetée par les autres pays. Et ça, j'en fais un peu l'expérience très directement avec ce projet appelé Corpus Juris, qui a été évoqué au début dans la présentation. C'est un projet qui propose des règles communes à l'échelle des 15 États membres de l'Union pour lutter contre les fraudes au budget européen. Alors, il s'agit de protéger le budget européen, donc il y a une certaine indifférence des États. Ce n'est pas leur propre budget. Il y a aussi une très grande inefficacité des droits nationaux parce que la délinquance est transfrontière alors que les policiers et les juges s'arrêtent, eux, aux frontières. Mais comment bâtir ce droit commun de façon pluraliste? Et là, nous nous heurtons de façon très, très concrètement à la difficulté à dépasser la vieille opposition entre les droits continentaux, on appelle romano-germaniques, et les systèmes de common law de l'autre côté de la Manche. Alors finalement, après beaucoup de tâtonnements, après beaucoup de recherche en droit comparé, nous avons proposé la création d'un ministère public européen, d'un parquet européen, qui sera un peu une synthèse. Parce que c'est reconnaître l'idée de poursuite publique, alors qu'en Angleterre, traditionnellement, on vit encore sous le mythe de l'accusation privée. Il y a seulement l'ébauche d'un parquet. Mais en même temps, c'est une synthèse, parce qu'on n'a pas proposé un juge d'instruction à la manière continentale, ça n'aurait pas été acceptable. On a proposé que ce parquet agisse sous le contrôle d'un juge arbitre neutre. Et ça, ça vient plutôt de l'influence britannique. Donc, l'Europe est l'occasion d'expérimenter, au fond, les deux processus d'internationalisation, l'unification et l'harmonisation. Et c'est l'occasion de constater qu'ils relèvent de logiques différentes, en fait. L'unification, on est sur un terrain connu, c'est la logique binaire. La pratique nationale doit être strictement conforme à la norme internationale, sinon, si petite soit la différence, il y aura une décision de non-conformité. Donc il faut une stricte identité. En revanche, l'idée d'harmonisation avec la marge nationale se contente d'une simple proximité. C'est plus complexe comme raisonnement juridique. Pour prendre sa décision, le juge doit situer la pratique qui est contestée sur une sorte d'échelle graduée. On est plus ou moins près du principe de référence. Il faut fixer un seuil de compatibilité qui déterminera l'ampleur de la marge acceptable et qui permettra finalement de prendre une décision. Autrement dit, la notion de marge, qui est au cœur de l'idée d'harmonisation, suppose un changement de logique. On quitte la logique binaire classique pour aller vers une logique de gradation qui évoque, j'ose à peine employer le terme parce que mon premier livre, Le flou du droit, a entraîné beaucoup de malentendus, qui évoque la théorie des sous-ensembles flous, il faut peut-être mieux le dire en anglais, fuzzy sets, donc un mode de raisonnement gradué. Et le laboratoire européen illustre bien à la fois ce changement de logique et les problèmes qu'il pose, voire le risque d'arbitraire, mais qui n'est pas là où on croit. Alors, on peut donner là aussi un ou deux exemples. L'harmonisation des sanctions en Europe se fait notamment autour de la notion de droit à un procès équitable. Ça, c'est le principe commun. Principe commun qui s'applique à toutes les sanctions à caractère punitif, non seulement les sanctions pénales, mais aussi des sanctions administratives, celles que prononce la COB, par exemple, la Commission des opérations de bourse, ou des sanctions disciplinaires, pensez aux sanctions qui s'appliquent dans les prisons, quand il y a un incident dans une prison. Il faut respecter, quelle que soit la nature de la sanction, ce principe du procès équitable. Donc, il conduit à un certain rapprochement des droits nationaux, mais pas l'unification, parce que la nature des sanctions reste différente d'un pays à l'autre. Par exemple, si vous prenez le code de la route, chez nous, c'est principalement pénal. En Allemagne, c'est principalement administratif. Si vous prenez les sanctions disciplinaires dans les prisons, en général, c'est plutôt du droit disciplinaire, mais parfois, c'est intégré au système pénal. L'harmonisation, elle donne des droits communs à tous ceux qui sont l'objet de ce type de sanctions. Ils doivent avoir accès à un dossier, ils doivent pouvoir se discuter les preuves, ils ont droit à un interprète. Maintenant, vous savez qu'on a introduit l'avocat dans les prisons françaises tout récemment. Donc voilà ce que c'est que l'harmonisation. Alors cela étant, il y a des risques d'arbitraire parce que l'ampleur de la marge admise varie beaucoup selon les domaines. C'est ça qu'on voit en Europe. En matière de procès équitable, au fond, on est assez facilement d'accord, la marge est faible et l'harmonisation est forte. Mais quand il s'agit de la vie privée, de la liberté d'expression, qui se heurte à des principes de morale et de religion, par exemple à travers le délit de blasphème ou le délit de pornographie, là, il y a de telles différences culturelles, même dans une zone relativement homogène comme l'Europe, que la marge est nécessairement très forte. Et par exemple, la Cour européenne a admis des condamnations pénales pour blasphème, ce qui nous paraît tout à fait étrange dans un pays laïque comme la France, au Royaume-Uni ou en Autriche, à la suite de films qui avaient présenté la religion officielle de façon dérisoire. Quant au problème de l'avortement, qui touche évidemment de très près à la morale et à la religion, là, la Cour européenne n'a pas vraiment pris position sur la question du droit à la vie, savoir si ça commence dès le stade de l'embryon ou pas. La Cour européenne est restée en fait un peu en dehors du débat. Alors, ces variations sont l'objet de critiques parce qu'elles ne sont pas toujours très cohérentes. On considère qu'une marge trop large, ben, ça facilite quelquefois le maintien dans tel ou tel état de conception trop moraliste. Pensez à l'application du délit de blasphème qui paraît un peu curieux à l'heure actuelle. Mais tantôt, on nous dit, attention, la marge est trop étroite, on impose une conception individualiste alors que des pays comme la France ou la Belgique restent attachés à la protection de la famille. Et il y a eu beaucoup de critiques à cet égard sur une jurisprudence sur le transsexualisme où la France a été condamnée parce qu'elle avait refusé une adaptation de l'état civil qui par ailleurs était acceptée en Angleterre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le laboratoire européen permet de situer où est le risque d'arbitraire. Le risque, ce n'est pas dans le changement de logique, mais c'est dans le fait de ne pas respecter les exigences propres à chaque logique. Au fond, en logique binaire, ce qu'il faut, c'est qu'une norme écrite doit être parfaitement précise. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'arbitraire. En logique floue, au départ, il y a imprécision. Mais cette imprécision devrait être compensée par un surcroît de transparence et de rigueur du juge, qui doit motiver, qui doit choisir des critères et garder les mêmes critères d'une affaire à l'autre, en particulier quand il fixe l'ampleur de la marge nationale d'appréciation, il devrait expliquer pourquoi la marge est faible ou forte. Et il devrait faire une sorte de bilan comparatif. S'il y a de fortes convergences, la marge peut être étroite. S'il y a beaucoup de divergences, la marge peut être plus importante. Tout cela devrait être beaucoup plus transparent et beaucoup plus rigoureux. À cette condition, la notion de marge permettrait d'assouplir le principe de hiérarchie sans renoncer à la primauté du droit international. En revanche, toute hiérarchie semble écartée avec la relation horizontale entre des ensembles internationaux de nature différente. Et ça, c'est l'idée d'un pluralisme horizontal qui nous conduirait, dans la mesure où il n'y a plus de hiérarchie du tout, à une autre technique qui serait la technique de la co-régulation. Alors, précisément, c'est un terme qui marque à la fois la volonté de préserver l'indépendance de chaque ensemble, en excluant toute hiérarchie, mais qui permet la recherche d'un ordre commun. En pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord une mise en relation des instances internationales par un jeu de rencontres, d'échanges. On sait à l'heure actuelle que les juges de Strasbourg et les juges de Luxembourg se connaissent, se rencontrent, échangent des informations pour essayer d'éviter d'être en conflit. Au niveau mondial, il pourrait y avoir davantage de rapprochements entre l'OMC et l'ONU. Dans d'autres régions, il pourrait y avoir des rapprochements entre le Mercosur et la Convention interaméricaine des droits de l'homme, ou l'OADA et la Charte africaine. Tout cela prendra du temps, d'autant que les difficultés varient. En Europe, c'est relativement simple, parce que les 15 États membres de l'Union ont tous ratifié la Convention des droits de l'homme. Donc le rapprochement des deux ensembles est relativement simple. En revanche, en Amérique, par exemple, ce n'est pas le cas. Les États-Unis font partie de l'ALENA en matière économique, mais ils n'ont pas ratifié la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Donc ça rend la mise en relation des deux institutions plus difficile. Alors, cela étant, même quand il y a eu ratification comme en Europe, on n'a pas d'hiérarchie entre nos deux Europes et entre nos deux cours européennes. Elles sont reliées, en réalité, par le biais du droit national. C'est-à-dire que la Cour des droits de l'homme à Strasbourg ne peut pas directement condamner l'Union européenne, ou plutôt la communauté européenne, s'il y a violation des droits de l'homme. Mais quand un État européen intègre les normes communautaires venues des 15 de l'Union européenne à son système national, lui, il peut être poursuivi pour violation des droits de l'homme. C'est arrivé, par exemple, en France, il y a quelques années. On avait intégré une directive communautaire sur la définition des médicaments qui était la base d'une incrimination pénale. Et voilà qu'on est poursuivi. Alors, on avait fait notre devoir de membre de l'Union en intégrant la directive. Et voilà qu'on est poursuivi à Strasbourg pour violation des droits de l'homme parce qu'on nous dit, attention, la définition est trop vague, vous violez le principe de la légalité pénale. La Cour de Strasbourg a été prudente. Elle a dit, la requête est recevable, mais s'est débrouillée pour argumenter et considérer que finalement, il n'y avait pas de violation. Ça valait mieux plutôt que de créer un incident diplomatique. Alors, en fait, on en est là. C'est-à-dire, on en est à des pratiques informelles, à des prudences quelquefois excessives. On pourrait se demander si l'idée de régulation, de co-régulation, ne devrait pas prendre une forme plus institutionnelle. C'est-à-dire que peut-être faudrait-il inventer une sorte d'organe paritaire composé des représentants des différents organes compétents qui essayeraient de rapprocher les points de vue en cas de conflit et qui, finalement, auraient le pouvoir de trancher le conflit. Mais ça, c'est du domaine de la prospective. De même, cette idée de co-régulation pourrait passer aussi par une participation des citoyens, un peu sur le modèle des conférences qui avaient été organisées à propos des OGM, des organismes génétiquement modifiés en 1998, ou à l'image du Forum des droits lancé à propos d'Internet. Et en même temps, alors, ce serait la manière d'amorcer une réponse à la troisième et dernière question, plutocratie ou démocratie. C'est la question la plus difficile, qui nous renvoie en fait aux acteurs de la mondialisation. Le constat, ce serait celui de l'impuissance de l'État. Le maître du territoire, comme dit Habermas, a perdu le contrôle de ses frontières. Et les acteurs économiques traversent et transgressent ouvertement ses frontières en s'organisant avec des stratégies globales. Mais il perd aussi le contrôle de la règle de droit, qui est inadaptée aux réseaux transnationaux, réseaux du commerce, mais aussi réseaux du crime organisé ou de la communication par l'Internet. Vous connaissez le problème. Alors, ce sont les acteurs eux-mêmes qui finissent par produire leurs propres règles, évidemment plutôt adaptées à leurs propres intérêts. Le risque étant d'aller vers un monde qui serait gouverné par une sorte de plutocratie cosmopolite qui est suffisamment flexible et mobile pour exclure à la fois les États, les citoyens et les juges. Autrement dit, la démocratie serait à réinventer à cette échelle. Alors, d'abord, il faut bien sûr penser à améliorer les institutions qui existent. Et là, il y a pas mal de propositions de réformes des Nations Unies qui sont en discussion à l'heure actuelle. Je ne vais pas les évoquer en détail. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, de toute façon, ça ne suffira pas. Et qu'il faudrait envisager deux perspectives complémentaires, ce que j'appelle l'idée du triangle civique et puis l'idée de la mondialisation des juges. Le triangle civique, en fait, il amène à réfléchir au rôle de la société civile. Bien sûr, c'est une notion très polysémique, peut-être même un mythe, mais il n'empêche que c'est un mot, la société civile, qui désigne un milieu, un entre-deux, destiné à relier, en réalité, la sphère privée à la sphère publique. D'où la figure du triangle. Triangle des acteurs publics, privés, notamment les acteurs économiques, et civils. Public, privé et civil, c'est ça le triangle. Et je crois profondément que c'est de la cohérence de l'action de ces acteurs que pourrait naître la fameuse interdépendance entre marché et droits de l'homme. Alors, ce serait une réponse à ceux qui craignent que le droit de la mondialisation l'emporte toujours sur la mondialisation du droit, c'est-à-dire que l'affaiblissement des États se poursuive, implique une privatisation qui rendra impossible la défense de l'intérêt général et le respect des droits de l'homme. Ce qu'on commence à lire dans un certain nombre de textes, c'est que le marché serait toujours gagnant, que l'indépendance serait une illusion vouée à l'échec, et que finalement, les droits de l'homme et l'intérêt général resteraient sans défenseur. D'où la tentation de se replier sur une sorte de souverainisme un peu radical, pur et dur. Alors, moi, il me semble que la figure du triangle civique pourrait conduire, au contraire, les États vers l'idée d'une souveraineté partagée. Partagée, pas avec seulement les opérateurs économiques, afin de leur aplanir le terrain, comme on a un peu tendance à le faire à l'OMC, mais partagée aussi avec la société civile. La pente la plus naturelle, c'est sans doute d'aller vers les plus puissants, donc vers les acteurs économiques. Mais j'ai un collègue philosophe du droit belge qui dit très bien, il faut s'arracher encore et toujours à la nature. Ben, même si c'est la pente naturelle, il ne faut pas la suivre. Donc il faut essayer de revivifier au contraire la société civile. C'est la condition pour constituer un lien social qui ne soit pas simplement un lien marchand. Et pour que les droits de l'homme restent au fond la boussole qui indiquerait la voie d'un ordre juridique mondial. Mais pour qu'il y ait vraiment ordre juridique, il faut que cet ordre soit respecté. Alors, ce qui nous renvoie au rôle des juges. Et c'est pourquoi je parle de mondialisation des juges. En cas d'échec, de toutes ces procédures de prévention, de négociation, il faut que les transgressions soient sanctionnées. Et c'est sans doute pas un hasard si les premiers tribunaux à composition mondiale sont de nature pénale. Les tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, la Cour pénale internationale qui sera créée quand 60 États auront ratifié la Convention de Rome, signée en 1998, on pense que ça devrait prendre encore environ 2 ans, eh bien, ce sont des cours pénales. Alors, les juges nationaux ne sont pas dessaisis pour autant. Dans le préambule de la Convention de Rome, on insiste sur la complémentarité de la Cour par rapport aux juridictions nationales qui garderaient une compétence de principe. Et d'ailleurs, vous le savez bien, les juges nationaux apprennent à se référer de plus en plus aux normes internationales, ils commencent au fond à conquérir une compétence mondiale. Rappelez-vous l'affaire Pinochet et la décision de la Chambre des Lords. Simplement, il faut mesurer les risques de cette mondialisation des juges nationaux. Risque d'interprétation divergente, risque d'ingérence inacceptable. Je ne suis pas sûre qu'il aurait été très opportun que l'ancien chef d'État chilien soit finalement jugé en Espagne. Il vaut sans doute mieux qu'il soit jugé au Chili, mais la meilleure solution, ce serait qu'il soit jugé par une cour pénale internationale, si elle existait, mais elle n'existe pas encore. En ce qui concerne les juges nationaux, il faudra beaucoup de temps pour qu'ils fassent l'apprentissage des règles communes de procédure et de fond, et de toute façon, ça ne dispensera pas de créer des juridictions internationales. Alors, en dehors des tribunaux pénaux, il n'y a pas beaucoup de telles juridictions à l'échelle planétaire. Il y a une montée en puissance de l'organe de règlement des différends pour l'OMC. Il y a des structures au plan régional qui se judiciarisent aussi. Mais ça ne suffira pas. Il faudra que des juges internationaux puissent sanctionner les violations des droits de l'homme. Et là, on a l'exemple qui n'est pas mauvais à l'heure actuelle de la Cour européenne des droits de l'homme. Pour d'autres régions, la situation est moins satisfaisante parce que les États hésitent à ratifier ces textes. Et puis, au plan mondial, le Comité des droits de l'homme des Nations unies, il n'a pas beaucoup de pouvoir. Il peut simplement constater les violations, mais il ne peut pas les sanctionner. Il ne peut pas condamner les États. Mais alors, sachant combien le pouvoir des juges est déjà redouté et contesté pour les juges nationaux, on mesure la difficulté d'une telle évolution. Quand même parler de mondialisation des juges alors qu'on craint déjà le pouvoir des juges, le gouvernement des juges à l'échelle nationale. En fait, on touche un paradoxe. C'est que la mondialisation des juges, elle n'est acceptable que dans une perspective pluraliste. Or, les instruments du pluralisme juridique, je les ai évoqués, la marge nationale, la co-régulation, ils impliquent en fait un transfert de pouvoir du législateur vers le juge, qui accroît encore le risque d'arbitraire. Autrement dit, le pluralisme, il pourrait conduire vers un gouvernement des juges aussi peu équitable que la global governance des plutocrates. C'est pour cette raison que la démocratie n'est pas dissociable de l'idée d'un pluralisme ordonné. Mais alors, vous voyez, tout se tient. Les trois propositions, elles s'enchaînent dans un cercle qui vaudra essayer de transformer en spirale avant que ça devienne le cercle infernal. Interdépendance entre économie et droits de l'homme, pluralisme ordonné, démocratie plutôt que plutocratie. Chaque formule est en elle-même un défi, mais c'est ensemble qu'elles devront être mises en œuvre, et je dirais pendant qu'il est encore temps. Alors heureusement, vous êtes là pour écouter, car c'est l'affaire de tous, de réaliser l'ensemble. Merci.
Oui, bonsoir madame. Donc vous avez parlé de montée en puissance de l'OMC. Il est vrai qu'au départ, dès que l'OMC est né, il y a eu une sorte d'euphorie, effectivement. Les décisions que prenait l'OMC aboutissaient à des sanctions vis-à-vis des États. On voit de plus en plus aujourd'hui, et on le voit dans, l'affaire du bœuf aux hormones, ou dans l'affaire des aides illégales ou détournées des États-Unis vis-à-vis de grandes firmes telles que Boeing, Motorola, etc., que les décisions qui sont prises par l'OMC ne sont pas respectées par les États. Ne croyez-vous pas que plutôt que de mondialisation, on assiste plus à une américanisation du monde ? Et avec, finalement, des décisions qui ne sont respectées par aucun des pays.
Ce que vous appelez l'américanisation du monde, c'est exactement l'idée d'une mondialisation hégémonique. C'est-à-dire que c'est effectivement l'alternative la plus visible à ce que j'essaye de proposer, c'est-à-dire une mondialisation pluraliste. C'est le système dans lequel l'État le plus puissant, économiquement et politiquement, impose sa loi au reste du monde. Alors, pour répondre à cela, à l'heure actuelle à l'OMC, il y a l'idée de faire des entreprises déjà des partenaires, c'est-à-dire qu'on renforcerait la dimension juridique en réduisant la dimension diplomatique. La dimension diplomatique amène à l'affrontement des États directement, donc à des rapports de puissance. La dimension juridique permettrait d'avoir une conception un peu moins hégémonique. Mais ça ne réglerait pas pour autant l'autre problème que j'ai évoqué et qui se pose en fait dans presque toutes les affaires soumises à l'OMC, qui est la question de protéger l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de protéger le commerce, mais de protéger l'intérêt général, données concernant l'environnement, concernant la santé, voire le statut social, etc. Donc, on est dans une situation où il est clair qu'il faut modifier à la fois le mécanisme institutionnel et les règles qui s'y appliquent. Et je crois que ce qui est une bonne chose, c'est la prise de conscience des faiblesses du système tel qu'il fonctionne à l'heure actuelle. Et ce n'est pas par hasard si on a constaté à Seattle toutes les difficultés. Alors, à l'heure actuelle, il y a pas mal de discussions qui se font en coulisses pour essayer d'améliorer les choses. Mais s'il s'agit simplement de faire entrer les opérateurs économiques sans faire entrer un peu plus la société civile, on n'ira pas bien loin.
Oui, je vous remercie donc pour cet exposé très clair. Je voulais vous savoir exactement, comme si j'ai bien compris... Oui, je suis là. Si j'ai bien compris, donc, l'empêcheur, celui qui empêche d'avancer, c'est l'État, et en particulier l'État puissant. Bon, on peut penser aux États-Unis, mais bon, ça, il faut peut-être éviter de caricaturer. Bref, ce que je voulais savoir, c'est quels sont les concepts juridiques qui appartiennent au droit public, au droit privé, etc., qui pourraient favoriser donc cette union, cet avènement d'un droit davantage mondialisé. Voilà. C'est-à-dire, comment se fait la genèse d'un droit dans un espace ?
C'est un peu ça. Alors, si j'ai laissé entendre que je pensais que l'État était l'empêcheur, je me suis très mal exprimée. Parce que je pense que, notamment en matière de respect des droits fondamentaux, on a besoin du relais des États. Et le risque, c'est au contraire d'aller vers une impuissance des États qui laisserait l'intérêt général sans défenseur. Donc je ne vois pas du tout les États comme des empêcheurs. La question, alors, est un peu différente de savoir si on va vers une conception hégémonique de la mondialisation ou de l'internationalisation à l'échelle d'une région, parce que le problème se discute aussi dans les régions où il y a un État manifestement plus fort que les autres. Et ça, c'est un autre problème. Il ne s'agit pas d'annoncer la disparition des États. Je crois qu'on a encore besoin des États pendant de très longues années, mais d'introduire un peu de pluralisme dans la manière dont se font ces normes communes. Et comme j'ai essayé de le montrer, ce qui est intéressant en Europe, et c'est pour ça que je prends le terme de laboratoire, c'est qu'aucun des États européens n'est en position d'imposer son système. Donc on vit en direct sur le terrain, et quand on participe à des discussions juridiques en Europe, c'est frappant, les difficultés, mais en même temps la possibilité de produire des normes communes en partant des différentes traditions et en les respectant, mais en les faisant progresser. L'exemple du parquet européen que j'ai cité, eh bien, ça n'est emprunté à aucun des 15 pays membres de l'Union. C'est quelque chose qui serait sui generis, mais qui, à mon avis, serait un système en progrès par rapport à la conception, par exemple, française, mais en progrès aussi par rapport à la conception britannique. Donc, c'est un peu ça l'idée. Je crois qu'il ne faut pas caricaturer, il ne faut pas considérer que l'État, c'est l'empêcheur. Parce que si on supprime tous les États, je ne vois vraiment pas au stade actuel qui défendra l'intérêt général.
Oui, monsieur, en haut, là, à droite. Oui, là.
Oui, bonsoir, madame. Vous nous avez parlé de l'Europe comme laboratoire, et peut-être un exemple d'édification d'un droit unifié ou au niveau mondial progressif. Mais il me semble que vous n'avez pas du tout évoqué un problème qui me paraît important, c'est que, quand on parle de mondialisation, c'est que l'entreprise ou les acteurs privés ont à intervenir dans des États quand ils ont des activités, et le problème qu'elles ont quand elles interviennent, prenons l'exemple de la Russie ou de la Chine aujourd'hui, c'est que, je dirais, ce ne sont pas des États de droit. Il n'y a pratiquement pas de droit, et donc elles sont soumises, dès qu'elles ont un litige, un arbitraire total. Et donc, avant de parler, d'un droit commun, il faudrait arriver à bâtir dans ces États, enfin, à ce que ces États adoptent un droit minimum qui permette ensuite de pouvoir dialoguer pour édifier quelque chose de commun à l'ensemble des acteurs.
Oui, mais ça fait partie justement des conditions. Pour la Russie, pour entrer dans l'Union européenne, il faudra bâtir des normes juridiques satisfaisantes. La Chine est en train de modifier tout un pan de sa législation pour préparer l'entrée dans l'OMC, dans l'Organisation mondiale du commerce. La Chine a d'ailleurs signé les deux pactes maintenant des Nations Unies sur les droits. D'abord, elle a signé le pacte sur les droits économiques en 1998, puis en 1999, le pacte sur les droits civils et politiques. Et actuellement, elle étudie assez habilement, d'ailleurs, les réserves faites par un certain nombre d'États qui ont déjà ratifié les pactes. Et il y a tout un travail en même temps de réflexion sur les modifications de la législation chinoise qui seraient imposées si la Chine franchissait le pas de la ratification, qui commence à être quelque chose de possible dans les discussions. Donc je crois qu'il ne faut pas prendre toutes ces données comme des données fixes. On est dans une situation extrêmement évolutive. D'ailleurs, tous ces mots, mondialisation, internationalisation, ce sont des mots qui désignent des processus en cours. Donc, il faut le voir comme tel, c'est-à-dire un mouvement vert. Et tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'éclairer un peu la voie en repérant quelles sont les conditions qui pourraient faire marcher, fonctionner ce processus. Mais gardez bien à l'esprit l'idée que tout cela est très évolutif. Cela étant, l'évolution est quand même relativement rapide, si on pense à certains domaines qui se sont accélérés un peu plus vite qu'on aurait cru. Le projet de Cour pénale internationale, il est dans les cartons des Nations Unies depuis l'après-guerre. Et là, il y a eu quand même une accélération avec la Convention de Rome. Nous avions eu une conférence sur le sujet il y a quelques jours avec l'ambassadeur canadien Kirsch qui a présidé les travaux à Rome et qui disait qu'au stade actuel, il pensait que le texte sera ratifié probablement dans les 2 ans. Donc, il y a une certaine évolution. Mais gardez bien cette idée que c'est un droit évolutif et qu'il ne s'agit que de processus.
Oui, madame. Devant.
Oui, merci. Je voulais remercier moi aussi, professeur Delmas Marty, parce que vous avez réussi à, justement en insistant sur le processus, à démoniser la globalisation, la mondialisation et tout ça. Mais je me demande ce que font nos compatriotes et surtout nos responsables politiques de. Ils ne vous lisent pas, ils ne vous écoutent pas. Enfin, c'est incroyable parce qu'ils nous présentent toujours les enjeux de façon simpliste, radicale et destructrice, finalement. Alors que là, vous nous montrez, y compris en ce qui concerne la Chine, la possibilité de nivellement par le haut dans certains domaines, n'est-ce pas ? Et de discussion et de. Même effectivement mieux se connaître si on est obligé d'observer les droits, les codes les uns des autres. Mais ma question porte, elle est le fruit d'une conférence qu'on a entendue récemment, samedi je crois, sur ce siècle des génocides. Où le
Marc Levin
qui nous disait que la solution, malheureusement, ne semblait pas, enfin il ne fallait pas trop compter non plus sur le droit. Et il nous a décrit quelque chose comme, sinon une pathologie, en tout cas des phases graves, oui, de pathologie des États, qui pourraient être par exemple les moments où les États ne peuvent pas ratifier. Par exemple, je me demande quelle est la pathologie américaine qui ne veut pas ratifier les droits de l'homme. Alors, vous voyez, il nous montrait qu'on ne peut pas penser en termes de droit uniquement et qu'il y a des moments où le droit n'est même pas un recours, où il est totalement livré au retour à la nature, comme disait votre collègue belge. Voilà, alors ma question c'est ça, comment articuler le droit avec quelque chose d'autre peut-être qu'il faudrait inventer, et en tout cas certainement pour nous, que les politiques nous parlent de façon plus nuancée, plus intelligente, et on devrait leur imposer une certaine école.
Merci.
Ben, écoutez, je crois que ce que vous dites, c'est simplement une leçon de modestie pour le droit et pour les juristes, c'est-à-dire que le droit n'est pas tout puissant. Le droit ne peut pas à lui seul résoudre des conflits quand ils sont extrêmement difficiles, voire violents. le droit, il n'est pas tout puissant, il n'est pas non plus complètement impuissant, c'est-à-dire il peut faciliter des choses. C'est pour ça que je vous ai parlé de cette recherche que je mène depuis plusieurs années avec des familles juridiques très éloignées de la nôtre, d'un côté en Chine, de l'autre dans plusieurs pays d'islam. J'ai moi-même, par exemple, fait des conférences à Téhéran et dans d'autres villes en Iran, pour essayer de comprendre ce qu'on pouvait faire dans l'immédiat, ce qui n'est certainement pas une unification d'emblée. Et c'est pour ça que j'attache tellement d'importance au concept d'harmonisation et au concept de marge nationale, parce que je crois que ça permet d'avancer à petits pas, de se rapprocher progressivement. Et là, les juristes, c'est clair, ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas se substituer aux politiques. Et d'ailleurs, ce serait une erreur aussi. Je veux dire, nous n'avons pas de légitimité démocratique, nous ne sommes pas élus. Donc, que des experts se mettent à faire le droit, que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale, ce serait dangereux aussi. Donc, il faut que chacun reste à sa place. Mais vous avez raison de dire, il faut qu'on s'écoute les uns les autres. Il faut que peut-être l'information circule mieux et davantage. Ben, je crois qu'en tout cas, comme juriste, moi j'ai beaucoup besoin d'avoir des interlocuteurs non juristes. Alors, avoir des interlocuteurs politiques, bon, je les ai souvent à travers mes travaux d'experts. J'ai participé à beaucoup de commissions de réforme, que ce soit en France ou en Europe. Donc là, j'ai les interlocuteurs politiques. Et là, la difficulté, c'est qu'eux, ils sont pris par un calendrier souvent électoral, pas toujours, mais en tout cas un calendrier très pressant, et que nous travaillons quand même dans une certaine durée. Donc il y a un problème de relation au temps qui n'est pas du tout la même. C'est assez frustrant. En même temps, je l'accepte, parce que je me dis, ce serait encore pire s'il suffisait de réunir 10 experts et de leur dire, vous faites le droit. Ce serait dangereux aussi. Donc ça, je l'accepte. Mais ce que je constate, c'est qu'au fond, là où j'apprends le plus, c'est quand j'ai l'occasion de rencontrer des non-juristes qui me posent des questions. Au fond, effectivement, c'est ça le triangle aussi, c'est la société civile. Et moi, ce que j'essaye de faire dans mon travail, c'est de donner des clés d'accès pour que les non-juristes puissent former sur le droit, et pas seulement sur le droit déjà bien structuré, mais sur le droit en gestation, ces fragments de droit commun qu'on voit surgir. Je voudrais que les non-juristes puissent se former une opinion, pas simplement des réactions épidermiques ou passionnelles, des paniques ou au contraire des enthousiasmes un peu naïfs, et qu'ils puissent argumenter. Et c'est vrai que là, il y a un peu un travail à faire de notre côté à nous, du côté des juristes, pour ne pas parler un langage trop ésotérique, pas employer des termes trop techniques. Moi, vraiment, une de mes ambitions, c'est d'essayer d'ouvrir les questions les plus difficiles du droit, parce que ce sont en général, malheureusement, les plus difficiles qui sont les plus intéressantes et qui sont les plus en prise sur la réalité et sur la future réalité. Et j'aimerais donner accès. Et c'est pour ça que j'étais très contente d'avoir l'occasion de parler ici même, parce que ça donne un premier contact, mais c'est quelque chose qui ne se fait pas suffisamment. Et c'est vrai qu'il faudrait développer beaucoup plus ce type d'échange, parce que je crois qu'il ne faut pas laisser le droit aux juristes, il ne faut pas non plus le laisser aux politiques, il faut une réappropriation, en fait, par tout un chacun.
Oui, monsieur, pour une question très brève, s'il vous plaît.
Quitte à être cynique, on pourrait dire que le droit ne s'applique que s'il y a une force derrière. Or, on a dans le passé deux exemples majeurs, le traité de Versailles et le procès de Nuremberg. Dans le traité de Versailles, on a voulu mettre l'Allemagne à genoux, on sait ce qu'il en est résulté. Quant au procès de Nuremberg, au contraire, on n'a pas suivi cette erreur. Alors, est-ce que ça ne doit pas nous donner un peu d'espoir, étant donné que là, on a essayé de ne pas mettre justement un pays à genoux?
Ben, je crois que j'ai rien à ajouter, parce que je suis d'accord avec vous. Nuremberg a rendu possible la construction européenne, qui, malgré tous ses défauts, est quand même une meilleure situation que la guerre.
Voilà, nous allons finir parce que nous devons rendre absolument l'amphithéâtre. Il y a un cours après, à 8 h. Donc, merci beaucoup, professeur Delmas-Marty.